Christophe de Pontfilly est mort, 55 ans, bien trop jeune, puisque c'était un homme qui va beaucoup manquer, je pense, à la profession et à tous les auditeurs et téléspectateurs qu'on est. Un grand humaniste, un grand reporter, un homme de sagesse, un homme d'honneur peut-être aussi, certainement même. Il va certainement beaucoup, beaucoup manquer. Je pense à lui, je pense à sa famille. Et je crois que beaucoup de gens vont être dans mon cas. Et j'ai bien de la peine. Voilà, à bientôt. Je m'appelle Nicole et j'habite dans le Morbihan. Au revoir.
Bonjour, c'est Pascal. Je viens d'apprendre la mort de Christophe de Pontfilly. Un type bien. Un type vraiment bien. Un journaliste honnête comme... Et subjectif, hein, comme le revendique Mermet. Voilà, il est parti, il était jeune, il dénonçait un certain nombre de choses, ce qui se passait en Russie à un certain moment, là, hein, depuis la chute du mur. Voilà.
Je vous appelle pour vous apprendre le décès de Christophe de Pontfilly, un cher ami. Il est décédé au Pakistan. Les circonstances de son décès ne sont pas encore bien connues, mais c'est au Pakistan, voilà. C'est très triste, je suis effondré. Voilà, je vous embrasse tous et avec peine.
Oui, bonjour, je m'appelle Faisal, je suis maghrébin, j'ai des amis juifs, on s'entend bien, on fait du sport ensemble, piscine, ça se passe super bien et il faut qu'on soit tous d'accord sur ce monde-là pour vivre et manger la baguette ensemble, voilà. Je suis tombé aujourd'hui sur votre émission par hasard, mais c'est super bien, je trouve que c'est une bonne émission, voilà. Il faut pas faire la différence entre les couleurs ou n'importe quoi, il faut qu'on s'entend bien et il faut qu'on soit liés, voilà. Merci, bon courage.
Voilà, j'écoute beaucoup votre reportage sur la cité de Rouen. Voilà, moi j'ai une nièce qui est mariée avec un Marocain. Et ce Marocain s'est fait exploiter par son père pendant des années sur les marchés. Il s'est mis à son compte maintenant grâce à ma nièce qui a réussi à lui faire tous ses papiers. Et moi je lui ai prêté de l'argent pour qu'il puisse acheter son camion. Et c'est un garçon qui est très courageux, qui fait tous les marchés, qui se lève à 5h tous les matins. Alors vous direz, c'est tous ces petits... Vauriens, parce que moi j'appelle ça des vauriens, hein, qui sont pas courageux, qui n'ont rien, qui n'ont pas l'esprit d'entreprise ni rien. Il faut pas les mettre tous dans le même paquet, parce que moi mon petit neveu il est très bien. Voilà, je suis Sylvine de la Garenne-Colombes, hein. Ces petits vauriens là, dites-leur d'en faire autant et qu'ils soient courageux. Et croyez-moi, il faut en avoir dans le ventre pour aller vendre sur le marché comme ça, parce que c'est pas facile tous les jours. Au revoir Daniel Mermet, merci.
Mon petit frère, il y a quelques années, il avait 20 ans comme Youssef de l'émission. Aujourd'hui, il a 25 ans. Il a donné dans le chocolat, il a fait des braquages, il a pris 4 ans de prison. Mais aujourd'hui, il s'en est sorti. Mais il y a un truc qu'il a pas choisi, mon petit frère. Il s'appelle Franck et il est blanc. Voilà. Salut!
Ouais, moi je vais faire une petite dédicace. Voilà, une petite dédicace à Boucagne, à Youssef. À tous les jeunes, hein, parce que je suis sûr qu'en plus ils sont en train d'écouter. Alors si Daniel, tu diffuses mon message, ben, ils vont entendre ce que j'ai envie de leur dire. Les gars, le risque, c'est de devenir raciste. Ne devenez pas raciste. Moi, voilà, je suis blanc. Un petit Toubab, un petit Nassara. J'ai vu les huissiers qui sont venus à la maison. Quand j'étais tout petit, jusqu'à 18 ans, ils venaient régulièrement. Ils prenaient des trucs, ils partaient. Voilà, mes parents sont français, ils sont nés ici. Et ben, c'est la merde pour nous aussi. C'est la merde. Ils savent pas l'oublier. Faut pas croire que on est français, alors bon, ça y est, c'est la belle vie, c'est super et tout. Il y a encore autre chose. La BMW, bon, je sais que t'es jeune, tu vois, mais putain, mais c'est quoi une BMW? C'est rien. Au contraire, c'est de la merde. Si je fais pour se la péter, juste de la consommation, c'est juste ça. Voilà. Je crois qu'il y a d'autres valeurs plus importantes qu'avoir une belle voiture ou quoi. Si t'es bien dans ta tête, si t'es heureux, si tu fais plaisir aux gens qui sont autour de toi, c'est le plus important. Merci. Julien.
Merci Julien pour ces messages, très nombreux messages sur la série d'émissions de la semaine dernière sur ce quartier de Rouen, les Hauts de Rouen. Ça, bah, ça, ça a balancé hein, sur le répondeur de la base du suis dans un sens, dans l'autre. On a essayé avec Dila, avec François et Yann de dépeindre ce quartier et on continuera d'essayer de faire comprendre comment on vit et d'abord nous de comprendre et de vous faire comprendre comment on vit dans ces quartiers partant calme ou à peu près calme. Et d'ailleurs si vous habitez dans ces quartiers sensibles comme on dit, faites-nous signe, ça peut nous intéresser. Il y a un auditeur de Strasbourg là qui nous a laissé un message l'autre jour par un des chauffeurs de taxi maintenant et on va prendre contact, enfin on a pris contact avec lui peut-être pour un éventuel portrait de son quartier. Hommage à Christophe de Pontfilly, nombreux aussi, messages émus, vous avez entendu, suite au décès de ce grand journaliste, un grand journaliste, Christophe de Pontfilly, qui était venu dans la base, si j'y suis, grand par son engagement, c'était le titre du journaliste qui a tendance, hélas, à se faire rare et... c'est le témoin engagé, disons, qui ne se contente pas de témoigner, mais qui en même temps ne reste pas inerte face à ce qu'il voit et dit ce qu'il pense. Il n'était pas seulement, comme on va sans doute trop le dire, lié avec évidemment Massoud, avec l'Afghanistan, le Panjshir, etc. Mais il a fait de nombreux reportages dans d'autres secteurs, dans d'autres pays, et puis tout simplement aussi en France. Et puis Anne-Marie Castoret aussi, qui a disparu. C'était cette journaliste qui avait révélé l'affaire du sang contaminé. Et voilà, une occasion de rendre hommage à des, j'allais dire, de vrais journalistes. Aujourd'hui, on peut se poser une question, d'où vient ce que l'on pense? Comment ça se fait que nous pensons ce que nous pensons et que nous disons ce que nous disons? Est-ce que ce que je dis là est bien à moi? Est-ce que c'est bien de moi? Hein? Ben, c'est pas si sûr, et c'est pas si sûr du tout, même depuis que les hommes se tiennent sur leurs pattes de derrière, ils s'en est toujours trouvé quelques-uns pour bourrer le mou des autres, bourrer le mou, laver les cerveaux, coloniser les esprits. L'histoire abonde en exemples et en figures terrifiantes, de tyrans, de dictateurs, de big brother. Mais que se passe-t-il par temps démocratique, comme ceux que nous connaissons ici et en Occident? Et comment ça se passe, ce bourrage de mou? Alors on dira, il y a la publicité. Oui, oui, mais il n'y a pas que la publicité. Ça se fait différemment, ça se fait plus subtilement, ça se fait, comme toujours, à notre insu. Vous connaissez la fameuse phrase de Mirabeau qui disait « L'homme est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles ». C'est une phrase qu'on peut rapprocher de la radio, bien évidemment. Tout ça pour vous annoncer l'émission d'aujourd'hui, qui est avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de ce mois de mai, qui était consacré à la guerre des idées. Il y a bel et bien guerre des idées. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a des idées aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est des idées? Et pourquoi y aurait-il une guerre des idées? Ben, on va essayer d'apporter des éléments de réponse dans cette émission, en référence au numéro de ce mois-ci du Diplo. Je vous rappelle que nous faisons une émission chaque mois depuis de nombreuses années avec l'équipe du Monde Diplomatique. En général, c'est au début du mois, mais là, comme nous étions en reportage à Dubaï, c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, les reportages de Dubaï, on démarre bientôt dans les jours qui viennent. C'est pas encore très précisé parce que c'est en plein montage. Voilà. Tout ça, c'est après les messages que voici et que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Moi, j'appelle à propos de l'émission sur Rouen. Je voulais juste, ça m'a fait penser à un monsieur qui a vécu assez longtemps à Rouen, qui était un exilé camerounais, qui était par ailleurs, à mon avis, à moi, un des plus grands écrivains africains du XXe siècle, un des plus grands militants anticolonialistes, anti-France-Afrique, anti-néocolonisation, du XXe siècle, qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Mongo Betty, de son nom de plume. Et j'invite les auditeurs à lire cet été, s'ils peuvent en trouver, certains des romans de Mongo Betty, ou bien des essais qu'il a écrits, entre autres, je pense, à Main basse sur le Cameroun, qui permettra à nos concitoyens de comprendre un petit peu quelle a été la politique française en Afrique. À partir de ses lectures, c'était un écrivain très incisif, caustique, Une personne par ailleurs qui avait une valeur humaine très très grande. Et moi je regrette beaucoup que ce monsieur soit parti. Il s'est battu toute sa vie pour qu'on parle des dictatures, pour qu'on parle du racisme, pour qu'on parle de tout ça. Et il a vécu une bonne partie de sa vie à Rouen. Il était prof de latin grec, de lettres classiques, dans un lycée, apparemment un assez grand lycée de Rouen. Mais c'était un bien plus grand monsieur que ça. C'était Mongo Betty, son nom de plume.
Salut Daniel, salut à tous les auditeurs, c'est Jocelyn de Morlaix. C'est pour vous rappeler que mardi 30 à 20h30, il y a le rendez-vous du repère de Là-bas si j'y suis à Morlaix, comme tous les mois, au café Le Tempo. Et puis, on vous attend pour discuter, pour échanger. Et puis, vous pouvez retrouver aussi des infos sur le site internet, quoi. Allez, Kena, ciao à tous.
J'appelle de Mayotte. Je voulais dire qu'à Mayotte, nous venons de constituer un réseau éducation sans frontières. Cette association, qui est en contact avec le réseau national, a pour objectif de défendre le droit à l'éducation, notamment le droit à l'éducation des jeunes étrangers ici, le droit à leur scolarisation et à la formation jusqu'à la fin de leur cursus. Donc nous avons créé ce réseau notamment pour aider les jeunes en situation irrégulière qui fréquemment sont arrêtés et reconduits à la frontière, donc dans leur démarche, mais aussi dans le soutien. D'autre part, je souhaite profiter de ce message pour dire que nous appelons un rassemblement mardi 23 mai à Mayotte, ici à Mamoudzou, devant la préfecture. Nous avions déjà fait précédemment un rassemblement, nous avions demandé un rendez-vous avec le préfet qui n'est jamais arrivé. Donc nous nous mobilisons à nouveau pour le respect des droits de l'homme et des droits de l'enfant sur l'île de Mayotte, pour que la santé et la scolarité soient accessibles à tous, pour un assouplissement de la politique des visas, contre un parcours administratif qui rend les légalisations quasi impossibles, contre les reconduites à la frontière abusives et les situations de détresse qui en résultent, contre une politique du chiffre, merci Sarkozy, et pour une politique de l'humain. Donc nous nous rassemblons mardi 23 mai à partir de 17h, un rassemblement pacifique devant la préfecture de Mamoudzou. Les signataires, notamment la Ligue des droits de l'homme, Sud Éducation, Solidarité Mayotte, Coordination pour la Concorde, la Convivialité et la Paix, CGT, SGEN, CFDT, et puis évidemment le réseau Éducation sans frontières. Merci de diffuser ce message. Je salue particulièrement l'équipe de Mermé, Guy Vanctil, et puis toute ma famille et amis de Paris. C'était Frédéric de Mayotte. Au revoir.
Je t'appelle de Guyane pour te faire part d'une triste nouvelle. Ils s'appelaient Capi et Domingo. C'était deux hommes doux et pacifiques, heureux de nous faire aimer par le partage de leur savoir le grand bois qui nous entoure. L'un m'avait montré le cheminement d'un tapir au détour d'un layon et l'endroit où il s'était laissé glisser dans l'eau claire d'une crique. L'autre m'avait enseigné certains composants entrant dans la confection d'un sel de casse traditionnel. Dans son édition du 19 mai, France Guyane annonce leur assassinat. Une balle dans la tête pour l'un, une balle dans le thorax pour l'autre. Sur le lieu même de leur lieu de travail, au camp Arataï, pour quelques marchandises, quelques moteurs. Il travaillait dans une station d'éducation à l'environnement, qui est proche de la station d'Inouarag, qui est une station de recherche du CNRS. Ce crime gratuit va sans doute fermer ce centre de recherche. Et par là même, ça symbolisera l'acceptation par l'État français du recul de la connaissance et de l'intelligence face au retour triomphal de la barbarie. La Guyane est envahie par des orpailleurs clandestins, en provenance du Brésil, à forte majorité, sachant que ce sont les orpailleurs légaux qui, souvent, ont fait venir les orpailleurs brésiliens. Et ensuite, par le bouche à oreille, évidemment, dans ce pays qui compte 40 millions de pauvres, eh bien, la grande immigration. En Guyane, l'orpaillage, ça tue, ça pollue et ça rend vraiment con. Ça bloque toute possibilité de développement durable et pérenne.
Allez, salut Daniel, c'est Stéphane. Ah, dis donc, génial la transition entre les quartiers des Hauts de Rouen et puis la première pub qui vient juste après ton émission sur le nouveau produit du Crédit Agricole en matière de gestion de portefeuille. Alors là, vraiment génial, on passe d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre. Bref, on peut pas faire mieux. Hein. Salut Daniel, et puis continue comme ça surtout. Salut.
Salut, c'est Daniel Mermet, la Bassi, j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors voilà, on attaque le numéro de mai avec beaucoup de retard par rapport au jour de la publication, mais sans retard étant donné l'intérêt évidemment capital de ce numéro du Monde Diplomatique. L'essentiel dans ce numéro du mois de mai, c'est la guerre des idées. La guerre des idées. Qui peut nous dire ce que ça représente, Serge Halimi, par exemple? Qu'est-ce que vous entendez par la guerre des idées?
Bah, écoutez, la question, c'est de savoir comment on formule la situation sociale et internationale. Et qui a le pouvoir de déterminer, en quelque sorte, les grilles d'analyse les plus pertinentes? On voit en France, en ce moment, qu'il y a une tentative, très largement appuyée par certains médias, d'opposer d'une part ce qu'on appellerait les nouveaux réactionnaires, autour de Finkielkraut, de Taguieff et d'autres, et face à eux, les nouveaux intellos progressistes, autour de Pierre-Rosan Vallon. Et l'intérêt d'une configuration de ce type, c'est qu'elle laisse à l'écart tous ceux qui se sont mobilisés dans des mouvements sociaux ou politiques d'envergure ces dernières années, ceux qui étaient actifs au moment du mouvement social de novembre-décembre 95, ceux qui étaient actifs au moment de la lutte contre le CEP, ceux qui étaient actifs au moment de la campagne pour le non au référendum. Et donc de créer une espèce de théâtre d'ombre où il y aurait d'un côté la droite, plus ou moins pro-américaine, pro-israélienne, autour de journaux comme Le Figaro, par exemple, et en face, la gauche libérale, autour de gens comme Pierre-Rosan Vallon, qui est en quelque sorte l'architecte de cette mouvance-là, et qui, lui, a été, dans le passé, à la fois favorable au plan Juppé, signataire du rapport Minc, favorable au oui au référendum. Donc vous auriez en quelque sorte un débat politique qui se résume à opposer des gens qui, sur les questions qui ont le plus mobilisé des forces sociales amples et radicales, s'étaient retrouvés du même côté de la barricade.
Le reste relevant de l'extrémisme.
Le reste relevant de l'extrémisme, à vrai dire, le reste n'existe pas. Ce qui est très frappant dans la campagne à laquelle on assiste depuis quelques semaines, et en particulier autour de ce colloque organisé par Pierre-Rosan Vallon à Grenoble, qui a donné lieu à une couverture du Nouvel Observateur, à un dossier de je ne sais combien de pages, la semaine dernière à un dossier de 6 pages du Monde, c'est que la mouvance qui a été la plus active dans les combats sociaux et politiques, s'opposant en quelque sorte à l'ordre libéral, est tenue à l'écart. Et évidemment, il y a là une espèce d'imposition idéologique et politique très importante. Ça n'est pas un hasard, par exemple, si le Nouvel Observateur, l'année dernière, faisait une couverture sur les nouveaux réacs avec la photo d'Alain Finkielkraut, et là, la semaine dernière, faisait une couverture sur les nouveaux intellos avec, en couverture, une série d'intellectuels ou de chercheurs proches de Pierre-Rosan Vallon, dont je précise que dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit que d'hommes, et que d'hommes blancs, ce qui fait que ça balise un peu plus le débat.
Mais quel est le rôle réel de ces intellectuels, donc plutôt à gauche ou plutôt à droite, sur la vie sociale, sur la vie politique du pays?
Ben, prenons un exemple, ce qui s'est passé après le 29 mai. Le 29 mai, ça a été quand même un mouvement de refus du libéralisme, de l'Europe libérale, etc. Vous regardez quelle est la traduction médiatique et intellectuelle de ce mouvement-là, c'est la thématique de la France qui tombe. Après le 29 mai, on n'entend plus parler que de la France qui tombe, du déclin, et on présente en quelque sorte le non au référendum comme un symptôme d'un pays qui irait mal. Pourquoi ? Parce que ceux qui contrôlent en quelque sorte les manettes du débat idéologique et du débat intellectuel en France étaient partisans du oui, et que naturellement ils n'ont pu interpréter la victoire du point de vue qui n'était pas le leur que comme un nouveau signe d'un nouvel échec du pays. Et tout ça a de l'importance parce que on sait bien que ces idées, progressivement, elles sont incorporées par un certain nombre de gens qui disent « oui, mais regardez ce qui se passe, c'est la preuve que le pays va mal, etc. » Et ces thématiques-là se diffusent progressivement dans l'opinion s'il n'y a pas, face à ce genre de thématique, une contre-offensive intellectuelle qui présente la réalité sociale et internationale d'une autre manière.
Alors, Anne-Cécile Robert, il y a un long papier dans le dipôt de ce mois de mai, Occident contre Occident, c'est-à-dire que vous reprenez le thème très en vogue de la guerre des civilisations, et vous nous expliquez qu'il s'agit là aussi d'un faux clivage, en somme. Hein. Ce que vient de dire Halimi, c'est-à-dire qu'on a une gauche, on se demande si elle est vraiment à gauche, une droite, en tous les cas qui l'est, mais qui sont tout à fait d'accord sur la question du libéral. Là, il y a consensus, il n'y a pas dissensus, hein, c'est ce que dit Halimi. Et là, vous reprenez un peu le même thème en disant Occident contre Occident, ou bien Occident contre le reste du monde. On voudrait nous faire croire qu'il y a l'Occident contre le reste du monde. Or, vous reprenez le thème d'Occident contre Occident, c'est-à-dire que il n'y a pas un Occident homogène.
C'est très important de rappeler qu'il n'y a pas un Occident homogène parce que on est face à des entreprises permanentes, dont Serge Halimi d'ailleurs vient de nous donner un exemple, de nier les débats de fond. Sur le 29 mai, sur le CPE, qu'on constate, c'est qu'au contraire, il y a une volonté de la population, au-delà de la question sociale, de poser des questions de civilisation et des questions politiques. Et en permanence, on essaie de tuer ces débats de fond en leur substituant des faux débats. Et le choc des civilisations, dont on voit bien le danger dans ce qu'il exprime de mépris pour les sociétés arabo-musulmanes, il a aussi cet effet chez nous d'essayer de nous faire croire qu'il n'y a qu'un seul Occident, dans une version libérale, que le traité constitutionnel exprimait très bien. Et de ce fait, on tue le débat politique et on tue les vraies questions. Et dans...
Qui sont les questions sociales pour vous ?
Qui sont les questions sociales, mais pas uniquement, c'est des questions de civilisation au sens profond, des questions politiques aussi. Si on prend le traité constitutionnel, qui a été rejeté l'année dernière en France et aux Pays-Bas, il y avait trois parties. On a beaucoup parlé de la partie 3 qui constitutionnalisait, entre guillemets, le libéralisme. Mais il y avait deux premières parties qui contenaient des principes politiques profondément antidémocratiques. On pourrait, j'ai pris plusieurs exemples dans mon article, mais je n'en prendrai qu'un seul ici, sur l'éducation, par exemple. Dans le traité constitutionnel, on avait une vision complètement instrumentale de l'éducation, soumise au marché. Alors que si on compare avec un autre texte concernant les droits de l'homme, qui est la déclaration des Nations Unies, on s'aperçoit que l'éducation est analysée comme devant concourir à la promotion des droits de l'homme, de la fraternité, l'épanouissement de l'individu, l'amitié entre les peuples. Donc on a pas seulement des problèmes économiques, on a une vision politique de la société qu'on essaie de nous imposer. Et qui conteste finalement tout ce qu'on essaie de bâtir depuis 200 ans. Depuis 200 ans, avec la philosophie des Lumières, on avait cette idée de l'homme libre, l'être humain libre qui peut maîtriser son destin grâce à sa raison. Et là, on nous assène une vision dogmatique des choses. Il n'y a qu'une seule politique économique possible. Le traité constitutionnel est le meilleur traité qu'on pouvait avoir. On revient à des visions fatales, dogmatiques, qui sont profondément antidémocratiques. Et Occident contre Occident, c'est de rappeler aux gens qu'il y a toujours eu des contradictions à l'intérieur des sociétés, et que c'est ces contradictions que les classes dirigeantes veulent tuer. Avec la théorie du choc des civilisations, avec la critique du totalitarisme, il y a quelques années on avait aussi l'idéologie du consensus, on essaie à chaque fois de tuer les débats de fond. Et l'Union européenne, c'est vraiment le symbole de ça, puisqu'on voit des gens dits de gauche se mettre à soutenir des textes de droite sous prétexte que c'est l'Europe. Donc on est dans la négation permanente du débat de fond, qui est un débat de civilisation.
Si Daniel Maire me le permet, je voulais rajouter un mot sur la question du choc des civilisations. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Anne-Cécile. Je voudrais simplement ajouter que c'est pas parce qu'une grille de lecture est fausse, est manifestement fausse, qu'elle ne prend pas. Et moi, je suis très frappé, dans l'année qu'on vient de vivre, de la rapidité avec laquelle cette grille absurde a pris. Un mot sur pourquoi elle est absurde, il y a ce qu'a dit Anne-Cécile, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas expliquer les désordres du monde par le choc de quelque civilisation que ce soit. Si on veut comprendre pourquoi le monde est chaotique aujourd'hui, il faut d'abord remonter à ce que sont les grands problèmes nationaux non résolus, à commencer par la question palestinienne, la question tchétchène, la question kurde, etc., et qui évidemment crée des frustrations très profondes dans un certain nombre de régions du Sud. Il faut parler de l'explosion des inégalités entre le Nord et le Sud, mais aussi, comme le dit Anne-Cécile, à l'intérieur du Nord, à l'intérieur du Sud. Il faut dire ce que sont les conséquences de l'hyperpuissance américaine et la manière dont elle s'est développée, avec les guerres en particulier d'Afghanistan et d'Irak. Je veux dire, si on veut essayer de comprendre pourquoi c'est le chaos, c'est pas dans le Coran, la Torah et le Nouveau Testament qu'on va aller trouver les réponses. Tout ceci est fort bien, et plus ou moins bien dit, et malheureusement, ça ne prend pas sur des populations qu'on enfonce de manière forcée dans le choc des civilisations. On l'a très bien vu avec l'affaire des caricatures, qui était une manipulation de part et d'autre pour faire rentrer les uns et les autres dans la grille de lecture du choc des civilisations. Quand vous allez aujourd'hui à Gaza et que vous voyez des jeunes militants palestiniens plus ou moins armés qui s'en prennent au centre culturel français, alors que la France a été depuis bien longtemps un des alliés les plus conséquents, peut-être pas dans la dernière période, on y reviendra j'imagine, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça le choc des civilisations. On a fait comprendre, en utilisant l'affaire des caricatures comme en utilisant les dossiers liés à l'aide supprimée aux Palestiniens, que l'Occident tout entier, France comprise, était l'ennemi. Et il y a là des gens qui y pensent et qui y croient, même chez les Palestiniens, qui sont loin d'être la population la plus dépolitisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais de l'autre côté aussi, quand on voit Ben Laden, Zarqawi et autres, la manipulation des cassettes, la manière dont on nous montre l'islam, dont on caricature les musulmans, ça tend à faire de ces musulmans les ennemis pour des couches très très larges de la population occidentale, en écrasant effectivement les débats existants chez nous et les batailles existantes chez nous. Donc il y a vraiment un danger. Je dis souvent, pour essayer de résumer ce danger, que le jour où des centaines de millions d'occidentaux considéreront que l'islam c'est Ben Laden et des centaines de millions de musulmans considéreront que l'Occident ce sont les tortionnaires d'Abu Ghraib, ben là, on sera mal barré. Et mal barré pour une longue période. On risque d'entrer dans un tunnel qui écrasera les luttes, que ce soit des luttes sociales ou des luttes de libération, dans un étau extrêmement difficile à desserrer.
Les auditeurs de la base, si j'y suis dans les jours qui viennent, verront qu'il n'y a pas de guerre de civilisation à Dubaï, par exemple. C'est une terre arabe, mais on cohabite très bien. On cohabite très bien, toutes les religions du monde, tous les peuples du monde cohabitent à Dubaï pour la plus grande prospérité et le plus grand dynamisme qui soit actuellement dans le monde arabe. On verra que le libéralisme règle toutes vos questions, cher Dominique.
C'est vrai, hein, il semble même les questions, comment dirais-je, de sexualité, par exemple.
Absolument, tout est réglé, tout est réglé, tout est réglé à Dubaï, on verra dans les jours qui viennent. Alors, on va parler du 29 mai, l'anniversaire du 29 mai avec Bernard Cassin, mais on peut faire un tour par un papier que vous donnez ce mois-ci dans le Diplo, du mois de mai, sur ce qui s'est passé en Italie, pendant qu'on avait une lutte profonde dans le pays autour du du contrat première embauche. On avait des élections, une campagne électorale très vive en Italie, et c'est nos voisins, et pourtant les luttes autour du CPE n'ont pas du tout été utilisées, on les a pas retrouvées dans la campagne pour les élections en Italie. Dominique Vidal.
On avait tous été frappés à la rédaction du Monde Diplomatique, on en avait discuté d'ailleurs, lorsqu'on avait publié une double page sur la bataille électorale en Italie, je pense que c'était dans le numéro d'avril, par la vacuité de la campagne menée par le centre-gauche, y compris par le parti ex-communiste, je veux dire le PDS, mais aussi par le parti communiste Rifondazione. Et donc on s'était dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, j'avais essayé moi de faire un petit résumé des raisons pour lesquelles les uns et les autres avaient joué le refus d'aborder les questions de fond, mais on s'est dit, bon, il faut y revenir. Et comme là, on a assisté à une situation qui confirmait quand même l'analyse qu'on avait portée, c'est-à-dire une victoire de justesse d'une coalition hétéroclite qui a le plus grand mal à faire élire ses candidats à la présidence de l'Assemblée, du Sénat, à mettre en place son gouvernement, autour d'une politique dont personne ne sait exactement ce qu'elle est, sauf que fondamentalement, elle n'est pas bien différente de celle de M. de Villepin en France ou d'autres dirigeants néolibéraux en Europe. Donc on a voulu aller demander à une personne particulièrement qualifiée, Rossana Rossanda, qui est la fondatrice du quotidien Il Manifesto, qui est une personnalité intellectuelle marquante en Italie. Elle a d'ailleurs fait un livre de mémoire, puisque c'est une dame qui a plus 20 ans, disons, un très beau livre de mémoire qui est un best-seller en Italie, parce qu'elle confronte les Italiens à ce passé glorieux de lutte, de combats démocratiques, sociaux, qui étaient ceux de la gauche italienne à sa grande époque. Et je trouve que Rossana Rossanda nous dit, mais il faudrait que les auditeurs lisent l'article parce qu'il n'est pas facile à résumer, nous dit des choses assez profondes. Elle nous dit d'abord, à un premier niveau d'explication, que si le CPE, la lutte contre le CPE n'a pas trouvé de relais en Italie, c'est parce que la politique du centre-gauche qui était en train d'essayer d'obtenir la majorité, c'est le CPE, c'est la flexibilité, c'est la remise en cause du Code du travail. Donc c'était un peu difficile pour cette coalition de déclencher en Italie un mouvement social contre des questions qui figurent au cœur de sa propre politique, mais de manière négative. Elle le développe, et je trouve qu'elle le développe bien. Mais Rossana Rossanda va un peu plus loin, et je trouve que c'est intéressant. Elle essaye de réfléchir sur l'histoire comparée de la France et de l'Italie. Pas seulement pour dire ce qu'on sait, que l'unité nationale italienne s'est forgée beaucoup plus tard, qu'il n'y a pas eu la Révolution française en Italie, il y a eu d'autres formes révolutionnaires, que l'Italie a eu le fascisme, que nous n'avons pas eu, sauf quand l'occupant s'est installé chez nous, mais elle essaye de montrer comment s'est forgée en France une espèce d'état d'esprit rebelle qui, à chaque fois, trouve, parfois lentement, parfois plus rapidement, les moyens de faire que s'exprime le refus des politiques inacceptables. Et elle dit quelque chose de très dur pour l'Italie, mais elle le dit. Elle dit, nous les Italiens, nous avons plus tendance à obéir et à nous arranger ensuite avec ce à quoi nous avons obéi, alors qu'en France, on a plus tendance à se rebeller. Je trouve que c'est agréable d'entendre des cocorico voilà. Quand ils ne sont pas poussés par des Français, mais quand ce sont des personnalités comme Rossana Rossanda, qui n'est pas quelqu'un de complaisant, y compris par rapport au mouvement ouvrier démocratique français. Elle a su dire des choses qu'il fallait dire en son temps. Mais c'est important. Troisièmement, dans le papier de Rossana, elle dit quelque chose qui est vrai, je crois, pour nous, et qui est tout un débat au sein du mouvement intermondialiste à l'échelle internationale, c'est la question de l'alternative devient de plus en plus une question pressante. C'est-à-dire on ne peut plus, et elle l'explique très bien, se contenter ni du refus des politiques néolibérales, ni du refus de l'hégémonie de l'hyperpuissance, ni même de quelques exemples glorieux, utiles et sympathiques et qui nous font vibrer. Il faut arriver à avancer vers des pistes, des perspectives alternatives. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais elle signale que c'est une nécessité de l'heure, que c'est pas seulement une question abstraite, c'est vraiment une question très concrète. Je trouve le papier, il faut le lire, enfin je préférerais que les auditeurs le lisent.
Bernard Cassin.
Sur la question des alternatives, les idées de Rossana Rossanda rejoignent absolument celles qui sont par ailleurs exprimées dans ce numéro par François Houtard et Samir Amin sur l'avenir des forums sociaux. Pour avoir participé au dernier forum social européen à Athènes il y a quelques semaines, j'ai pu vérifier que cette préoccupation était maintenant largement partagée, que la question du pouvoir était posée, que les thèses selon lesquelles on peut changer la société sans prendre le pouvoir ne marchent pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut changer la société en prenant le pouvoir. Mais sans le pouvoir, on ne peut pas la changer. Tout le monde se pose, tous les mouvements sociaux se disent, bon, d'accord, un autre monde est possible, mais lequel? Dites-nous quoi? Et les citoyens demandent quel serait le profil, quels seraient les linéaments de ce futur monde possible. Ce qui pose la question de formulation d'alternatives relativement cohérentes. Et question encore plus compliquée, c'est qui la met en œuvre et comment et quel rapport entre l'instance politique et les mouvements sociaux qui porteraient ces aspirations. La question est posée, elle n'est pas résolue. Je pense que ça rejoint qu'est-ce qui reste du 29 mai aujourd'hui. Parce que le 29 mai était un refus de l'ordre libéral, de la constitution du libéralisme.
Visiblement, il reste tout, puisque des sondages indiquent que 99% des Français, s'ils devaient revoter demain, enfin le 29 mai, revoteraient de la même façon. Donc il reste tout.
Ce sondage est une gifle absolument magistrale, une fessée sévère à tous ceux qui avaient entamé un travail de culpabilisation, des gens qui auraient voté
mal, d'effacement,
qui auraient rien compris, et qui ont provoqué ce déclin de la France qui est fustigé, je dirais, hebdomadairement dans Le Point, l'Express, un peu partout. Eh bien, non, les gens restent solides sur il y a une sorte de socle granitique de refus de l'ordre néolibéral. La révolte du CPE est une conséquence directe du 29 mai. Donc les forces qui se sont mobilisées là, et même au-delà d'ailleurs, mais c'est le même esprit de rébellion, de refus d'une mesure qui en elle-même n'est pas extraordinaire. De la précarité, il y en avait toujours, mais là, on a voulu l'inscrire symboliquement dans la loi, et en particulier en direction des jeunes. Mais on l'a inscrit dans la loi avec le CNE qui a été passé par ordonnance le mois d'août précédent et qui reste maintenant un objectif de combat. Donc c'est cette symbolique-là. C'est parti de pas grand-chose. La lutte pour le CPE a démarré de manière relativement chaotique. C'est graduellement que la mayonnaise a pris quand cette dimension symbolique a été perçue par tous. Donc les 55% sont toujours là. Ils se sont exprimés. Ils ont eu des effets. La fameuse directive Bolkestein que nous avons souvent dénoncée et dont nous avons parlé devant votre micro, qui est en quelque sorte l'organisation systématique du dumping social à l'intérieur de l'Union européenne par la fameuse règle du pays d'origine, c'est-à-dire vous travaillez en France, mais vous êtes travailleur lituanien, vous bénéficiez, si je puis dire, du régime social, de la sécu, etc., lituanienne. On peut prendre toutes sortes d'exemples. Cette directive-là, qui est la plus importante directive qui a été prise depuis celle de 1988 sur la libération des mouvements de capitaux, parce qu'elle concerne 70% de l'activité de l'Union européenne. Les services, ce n'est pas rien. Les services, vous êtes fait dans le service, nous en faisons aussi, etc. 70% de l'activité. Donc cette directive est un peu la mère de beaucoup d'autres directives. Eh bien, c'est le 29 mai qui a conduit le Parlement européen et la Commission à faire relativement profil bas. Alors, la nouvelle mouture qui a été votée par le Parlement est totalement inacceptable, mais elle est moins inacceptable que la précédente. Alors, on verra lorsqu'elle sera formulée de manière définitive et lorsque le Parlement européen devra s'en saisir, mais c'est une victoire du 29 mai. Il y a maintenant la Commission européenne qui s'est, donc des membres se sont absolument indignés du CPE. N'ont pas compris ce qui se passait. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar en France? Les Français, une fois de plus, sont des fous. Ils se tirent des balles dans le pied, etc. La Commission européenne est obligée de faire un peu profil bas. Mais ce 29 mai ne va pas se traduire par des... En France, va pas se traduire par des grandes festivités. Il y a des colloques organisés ici et là, mais il y a encore un profil bas. Et pourtant, ça gronde. J'ai rencontré une personne qui fait la recherche des tendances, qui l'a redit d'ailleurs dans une interview au Nouvel Économiste, que le divorce entre les dirigeants politiques, mais aussi, et même surtout économiques, et les citoyens est terrible. Et c'est pas les chiffres que nous venons de voir récemment dans la presse sur la rémunération des patrons du CAC 40 qui se sont octroyés des augmentations faramineuses, alors qu'elles étaient déjà leur rémunération faramineuse, qui va combler ce gouffre. Alors, comment va s'exprimer cette, il y a une sorte de force dormante du feu qui couvre sous la cendre. Comment va-t-il s'exprimer? Personne ne le sait. Et il n'est d'ailleurs pas du tout garanti qu'il s'exprime de manière positive. Il y a plusieurs issues possibles à ce réveil.
Personne ne le sait, et les sondeurs, pas davantage que les autres, parce qu'il faut beaucoup...
Ils l'ont montré lors des consultations de 2002, 2005, voilà. Avec le CSA et CSU.
Donc il faut se méfier des déceleurs de tendances, même quand ils décèlent des tendances dont on est plutôt satisfait.
Voilà, on est toujours autour du numéro du mois de mai du Monde Diplomatique et on se demande, les auditeurs sont en train de se demander, là-bas, si j'y suis, va-t-il encore censurer le Venezuela, censurer l'Amérique latine? La réponse, c'est non, car Maurice Lemoine est là.
L'Amérique latine ne se laisse pas censurer, même sans Maurice Lemoine. Non, on s'est intéressé dans ce numéro de mai à l'Équateur. L'Équateur, c'est un pays dont certaines provinces sont en état d'urgence depuis maintenant plusieurs mois, du fait de nombreuses manifestations populaires contre le traité de libre commerce qui va être signé avec les États-Unis et contre la Occidental Petroleum, une compagnie pétrolière multinationale américaine, qui d'ailleurs la semaine dernière vient d'être virée d'Équateur par le gouvernement sous la pression de ce mouvement social extrêmement fort. Et c'est vrai que si les Équatoriens refusent ce traité de libre-commerce, c'est parce qu'ils vivent déjà dans ce monde néolibéral, ultralibéral, on peut l'appeler comme on veut. Et on s'est intéressé à la banane dollar. Après tout, la banane, ça nous intéresse, on en mange tous les jours. Et or, il se trouve que l'Équateur est au premier rang des pays exportateurs de bananes, hein, puisqu'il en produit plus de 4 millions de tonnes par an. 25% du marché mondial, et le marché de la banane en Équateur est dominé par trois multinationales, bien sûr, américaines, vous l'avez compris, ou états-uniennes, Dole, Chiquita Brands et Del Monte, et puis une compagnie nationale mais privée, quand je dis nationale, Bananera Noboa, qui a la propriété d'Alvaro Noboa, qui est un des hommes les plus riches d'Amérique latine et qui va se présenter à la prochaine présidentielle. Et on s'est intéressé aux conditions de travail dans ces bananeraies, je vais pas vous surprendre d'une certaine manière. Hein. Cela étant, l'Équateur a une particularité, c'est que les multinationales ne font plus comme elles faisaient à l'époque de la United Fruit au Guatemala, vous vous rappelez la pieuvre verte telle que l'avait décrite Miguel Angel Asturias. Là, elle achète les bananes à 6000 producteurs équatoriens. Elle leur achète bien sûr les bananes à des prix défiant toute concurrence, moyennant quoi ces producteurs équatoriens sont obligés de reporter le poids de ces prix sur leur travail. Et là, on est dans un schéma classique de travail des enfants, sous-traitance, précarisation, non-application du droit du travail, chasse aux sorcières dans les syndicats, donc ce qu'on connaît dans le tiers-monde. Là où la chose devient intéressante, c'est que, évidemment, ces bananes dollars...
C'est incroyable de dire ça si vite et de s'y habituer. On dit, ou alors on trouve ça partout, c'est fou, hein, hein, c'est fou.
Là où la chose devient intéressante... et préoccupante, elle était déjà pour les Équatoriens, c'est qu'en fait, ça a des effets directs chez nous. Alors, bien sûr, vous allez me dire, cette banane à des prix hors concurrence, finalement, ça serait plutôt positif pour nos consommateurs. Hein, après tout, les bananes arrivent bon marché. Sauf que depuis 1993, les deux tiers du marché de la banane en France étaient réservés aux Antillais, la Martinique, la Guadeloupe, et puis un tiers aux pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui jouissaient en France de quotas. Or, à la suite, à la fin d'une longue bataille avec l'Organisation mondiale du commerce, la France a été obligée de réviser cette politique de quotas, et que maintenant les bananes équatoriennes, entre autres, vont rentrer sur le marché sans obstacle. Et c'est pas d'être ni xénophobe ni raciste par rapport à nos amis latino-américains que de dire que les producteurs antillais vont être complètement ruinés par cette politique. Ce qui fait qu'on se rend compte que dans ce jeu du libre-échange total, on est dans un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que les travailleurs équatoriens sont complètement exploités, et de leur côté, les travailleurs antillais vont se trouver au chômage et avec un délitement du tissu social aux Antilles.
Voilà, c'est ce qu'on avait un peu vu avec la confection au Bangladesh, par exemple, c'est à peu près le même mécanisme. Dominique Vidal, le Proche-Orient, la situation palestinienne.
Bon, c'est une situation gravissime, à la fois sur le plan de la vie des gens. Hein. On a maintenant, on peut dire, une situation de famine pour certains Palestiniens des territoires. On a des malades qui meurent parce qu'il n'y a pas de médicaments. Et puis on a une tension entre les différentes forces politiques qui fait craindre une guerre civile. Donc on est dans une situation créée par une décision de l'Union européenne d'arrêter l'aide aux Palestiniens, qui est une décision criminelle, absurde et contre-productive. Criminelle parce que on ne peut pas oublier qu'il s'agit de gens qui pour 40% sont au chômage, pour 60% vivent en dessous du seuil de pauvreté, $2 par jour, et que les 165 000 salaires des fonctionnaires que devait payer Israël d'une part, l'Union européenne de l'autre, eh bien ça fait vivre plus d'un tiers de la population, 1 million de Palestiniens des territoires en vivent. Deuxièmement, c'est une décision absurde parce que les Palestiniens n'ont pas voté pour la destruction d'Israël et pour la relance des attentats kamikazes. Tous les sondages qui ont été faits juste après l'élection et depuis disent que 85% des Palestiniens sont pour un accord de paix définitif avec Israël. Et quand on leur demande « est-ce que vous voulez la charia ?», 3% disent la charia, 3%. Donc c'est pas un vote Hamas au sens d'un vote religieux ou d'un vote en faveur de la lutte armée, voire du terrorisme. Non, c'est un vote de désaveu du Fatah et de 30 à 40 années de lutte qui n'ont pas abouti, menées par le Fatah.
Oui, un Fatah désavouable sans doute à certains égards, mais aussi très affaibli par Israël.
Oui, bien sûr. Israël a joué ce jeu. Comme dit notre ami...
Il y a Hamas plutôt favorisé aussi par la politique israélienne.
Comme dit notre ami Joseph Al-Ghazi, qui écrit souvent pour Le Monde Diplomatique, il m'a dit ça le soir des élections, le 25 janvier. Il m'a dit, on n'a pas voulu vraiment discuter sérieusement avec le Fatah. On a le Hamas. Si on ne veut pas discuter avec le Hamas, on aura le djihad. Et si on ne veut pas négocier avec le djihad, on aura Al-Qaïda. Attention, ce n'est pas des paroles en l'air. Hein. On a aujourd'hui des tentatives... des gens de Ben Laden, d'essayer de trouver ce qui n'avait jamais eu un relais dans les territoires. Troisièmement, je disais contre-productive, parce que c'est évident que les décisions prises, elles ne peuvent que radicaliser les gens, et donc le Hamas. Alors, est-ce que le Hamas ne pose aucun problème? Bien sûr qu'il pose des problèmes. La position de la charte du Hamas sur une série de questions pose, mais à condition de ne pas faire deux poids, deux mesures. Donc, l'Union européenne pose les mêmes questions à ses deux partenaires, israéliens et palestiniens. Par exemple, on dit, le Hamas ne reconnaît pas l'État d'Israël, c'est pas bien. C'est vrai. Mais l'État d'Israël ne reconnaît pas l'État palestinien. C'est pas bien non plus. Il faut poser aux deux la question de la reconnaissance réciproque de l'État. On dit, le Hamas couvre ou organise ou a organisé des attentats terroristes. C'est vrai, encore que ça fait un moment, parce que depuis la trêve qui dure depuis l'élection de Mahmoud Abbas à la présidence en janvier 2005, il n'y a pas eu d'attentats terroristes organisés par le Hamas. Mais admettons la question du terrorisme, c'est une vraie question. Mais quand Israël bombarde des populations civiles à Gaza, c'est quoi sinon du terrorisme? Il faut poser la question du terrorisme, de groupe ou d'État, aux deux partenaires. Et quand on dit le Hamas n'entérine pas ou n'accepte pas les accords de paix, les résolutions de l'ONU, etc. Mais est-ce que Israël applique la résolution de 1967 des Nations Unies qui demandent son retrait des territoires occupés? Est-ce qu'Israël tient compte de la résolution qui demande la destruction du mur?
Est-ce qu'Israël tient compte des résolutions qui exigent qu'on n'annexe pas Jérusalem-Est? Est-ce qu'Israël, etc., etc. Je dis simplement, il faut poser la même question aux deux partenaires. Dernier point, et il est important quand même, l'Alzheimer dont est atteint le pouvoir français. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague du gars qui va chez le médecin et qui dit « Docteur, docteur, j'oublie tout ». Et le médecin lui dit « Depuis quand ?» Et le gars dit « Depuis quand quoi ?» Ben, c'est à peu près l'état du pouvoir français, puisque dans la même semaine, il a voté à Bruxelles l'arrêt de l'aide européenne aux Palestiniens, et il a, au Caire, annoncé qu'il était absolument hostile à l'arrêt de l'aide aux Palestiniens. Après quoi, il a reçu Mahmoud Abbas, le président palestinien, à Paris, pour inventer un mécanisme qui permette de contourner la décision européenne, mécanisme qui existe déjà. On sent bien qu'il y a, depuis la visite d'Ariel Sharon en France en juillet 2005, une évolution très sensible de la politique française. On est en pleine coopération accélérée ministérielle avec Israël. On invite même le ministre de la Sécurité israélienne pour qu'il explique comment il faut faire pour mater les révoltes dans les banlieues. Il faut le faire quand même, hein. Nicolas Sarkozy a aussi des idées humanistes, hein. On voit qu'il y a un homme qui pense aux droits de l'homme, des femmes, des jeunes dans les banlieues. On a, c'est évident, un silence sur tout ce qui est répression israélienne dans les territoires, mais là, je crois qu'on est au-delà du pensable, c'est-à-dire on ne peut pas, devant l'opinion publique française, affirmer clairement que la France a voté, et pourtant elle l'a fait, une mesure qui, je l'ai dit, va affamer les gens et risque de provoquer à terme une situation de guerre civile. Ça, je crois qu'il faut sortir une bonne fois du double langage et retrouver un minimum de dignité dans la position de la France sur le conflit israélo-palestinien.
Merci à l'équipe du Monde Diplomatique, Dominique Vidal, Anne-Cécile Robert, Bernard Cassen, Maurice Lemoine et Serge Halimi aujourd'hui. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, dont la liste des disques qui ont accompagné les reportages de la fin de la semaine dernière. Vous avez été très nombreux à nous demander les références. Vous pouvez les trouver sur ce site Radio France à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, évidemment, comme chaque jour, assisté de Pascal Pascariello et Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et le mail de l'émission, je le rappelle, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.